Frères et sœurs en Christ, chers amis, bonjour. Soyez les bienvenus en ce lieu et que le Seigneur nous guide, nous accompagne, nous bénisse cet après-midi au travers de la lecture et le partage de sa parole. Vanité des vanités. Alors nous avons lu ce texte avec quelques explications et pouvons voir dans les premiers versets la vanité de la richesse, ainsi que de longues vies et des familles florissantes. Et puis dans la deuxième partie, versets 7 à 12, pouvons voir le minuscule avantage que chacun peut trouver et chacun trouve dans les choses extérieures. Alors l'homme a souvent tout ce dont il a besoin pour son plaisir extérieur et cependant, le Seigneur lui laisse la cupidité et lui laisse en son cœur de mauvaises dispositions pour qu'il ne fasse pas bon usage, un usage raisonnable de ce qu'il possède. Sa plénitude reste floue. C'est moi qui fais, mais en fait, c'est un autre qui va en profiter. Voyez un peu la pensée de l'Ecclésiaste. D'une manière ou d'une autre, ses possessions parviennent à des étrangers. Et ceci est vanité, dit l'Ecclésiaste. Une famille nombreuse était à l'époque quelque chose de très recherché. Mais à quoi cela sert-il selon l'Ecclésiaste ? Celui qui est entré dans la vie y entre pour un moment et puis la quitte rapidement. Il est dit que tout va dans le même lieu. Le désir de l'âme ne trouve rien dans les richesses de ce monde pour lui donner une satisfaction. L'homme pauvre peut obtenir autant de satisfaction que l'homme riche. Les choses que poursuivent les hommes sur terre augmentent leur vanité. Alors, il y a beaucoup de choses dans ces versets et j'aimerais pas vous remplir de toutes ces pensées, mais il est bien d'en dégager quelques-unes et de pouvoir réfléchir à cela, pas réfléchir pendant notre échange, mais pendant ce message, mais prendre le temps de réfléchir. Notre vie sur terre est comptée en jours. Et nous ne savons pas, nul ne sait, quelle est la longueur de nos jours. L'auteur, l'Ecclésiaste, d'ailleurs dans le livre, celui qui a écrit le livre, donc l'Ecclésiaste, hein, c'est Coélète, ce qui peut signifier le chef de l'assemblée. Mais ce livre est attribué à Salomon. Et nous pouvons aisément, dans les premiers versets, reconnaître quelle a été la vie de Salomon. Une vie remplie de richesses. Le livre se présente comme le journal de bord d'un homme en quête du sens de la vie. Or, ce sens, il ne peut le trouver que s'il découvre une valeur permanente. Il prend en quelque sorte, cet ecclésiaste prend le chemin inverse des autres livres. Parce qu'il se met dans la peau de quelqu'un qui aurait seulement son intelligence naturelle, Donc il part du donné, du vécu, il observe, raisonne, expérimente, discute. Voilà ce qu'un homme peut avoir, voilà ce qu'un homme a, voilà ce que j'ai. À quoi cela sert-il? Et cet ecclésiaste, en fait, est très proche de l'homme du XXe siècle. Pour que le but de la vie soit valable à ses yeux, il faut qu'il en explore les limites. Parce que Dieu a mis dans son cœur le sens, Dieu a mis dans notre cœur l'intuition de ce qui est éternel, c'est-à-dire qui dure au-delà de cette vie. L'Ecclésiaste rejoint là bien des penseurs et des poètes qui ont exprimé à leur manière ce besoin de trouver un but de vie dépassant les limites de ce qui est passager et périssable. L'Ecclésiaste pose la question, mais quel profit durable, permanent, quel bénéfice final l'homme retire de toutes ses richesses ou de sa richesse et de toutes ses peines? Et quels sont les buts que se fixe l'homme? Les buts de richesse, de plaisir, de sagesse, de moralité. Mais sans oublier le facteur fin, le facteur mort, qui, à un moment donné, tout s'arrête. C'est pour ça qu'il dit que quelqu'un d'autre peut jouir de mon travail, quelqu'un d'autre peut jouir de mes biens. Ce que j'ai amassé, je ne partirai pas avec. Augmentez vos connaissances, vous augmenterez vos souffrances. Ecclésiaste chapitre 1, verset 18. Et puis, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. C'est un éternel recommencement. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Un homme vient, vit, prospère à sa manière, part, puis un autre vient et ainsi de suite. C'est un éternel recommencement. André Malraux a utilisé cette citation, « Tout est futile et inutile. Il n'y a rien de valable et de permanent sous le soleil. Le bilan est déposé. » Il est inquiétant. Pourquoi il est inquiétant? Nous allons voir pourquoi c'est inquiétant. Cette expression « sous le soleil » revient 24 fois dans ce livre. Et c'est une expression que l'on ne retrouve pas dans les autres livres de la Bible, mais uniquement dans ce livre, « sous le soleil ». Et l'examen auquel se livre l'Ecclésiaste est strictement limité à l'horizon sur cette terre. Qu'est-ce qui se passe pour l'homme pendant sa vie sur terre? Et bibliquement parlant, la vie d'ici-bas s'oppose à la vision de là-haut, à cette vie de là-haut. Et au-delà de cette vie, il y a quelque chose qui attend l'homme, c'est le jugement après la mort, immuable et pour chacun. Jeune homme, réjouis-toi, suis les élans de ton cœur et poursuis ce qui charme tes yeux. Mais n'oublie pas que Dieu te demandera compte de tout ce que tu fais. Pense au Créateur au temps de ta jeunesse. N'attends pas que se rompe le fil argenté de la vie, que la poussière retourne d'où elle est venue et que le souffle de vie remonte à Dieu qui l'a donné. Quelle valeur relative, voyons-nous? Qu'est-ce qui a été examiné? Les richesses, les plaisirs, le travail, la sagesse? Mais en soi, ce n'est pas une valeur absolue. Donc, valeur durable, susceptible de donner un sens à une vie. Est-ce que c'est la richesse qui donne un sens à la vie de l'homme? Est-ce que c'est sa prospérité, voire même sa postérité? C'est dans cette tension entre valeur absolue et valeur relative que réside le secret d'une vie équilibrée, conforme à la volonté de Dieu. Dieu ne dit pas d'avoir une petite famille, ni une grande famille, ni d'avoir des petits biens et des grands biens. Mais au travers de cela, est-ce que nous recherchons le bonheur absolu dans ce qui est autour de nous, dans ce que nous possédons? Et est-ce que c'est ce que nous possédons, c'est ce qui est autour de nous qui va nous donner ce bonheur absolu, le bonheur, l'amour avec un grand A, la richesse, celle qui vaut toutes les richesses? L'Ecclésiaste ne dénonce pas les œuvres humaines, hein, le plaisir, les constructions, les richesses. Mais que dans la mesure où il leur demande de résoudre le mystère de son destin. Qu'est-ce qu'il y a au bout de tout cela? C'est la question qui revient, en fait, sous-jacente. Pourquoi tout cela et qu'est-ce qu'il y a au bout? Est-ce que tout ce qui nous a été décrit continue ou s'arrête après notre mort? Et qu'en ferons-nous? Est-ce que cela, je vais aller plus loin, est-ce que cela va donner de la valeur à notre après la mort? Ou est-ce que cela ne va donner aucune valeur? Est-ce qu'un riche a plus de valeur, sans parler argent, hein, qu'un pauvre? Est-ce qu'un célibataire a plus de valeur qu'un homme marié? Je ne sais même plus si maintenant il faut se lancer là-dedans, mais si, qu'un homme marié avec beaucoup d'enfants. La valeur de la sagesse. C'est dans la conduite pratique de la vie que la sagesse révèle ses avantages et assure le succès. Souvenez-vous de la demande de Salomon. Qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? A-t-il demandé des richesses? A-t-il demandé une postérité immense? Qu'a-t-il demandé? La sagesse. Tout le reste lui a été donné en plus et en surplus. Mais dans tout cela, Salomon avait la sagesse. Et lui-même était bien placé pour se dire, mais tout compte fait, qu'est-ce que ça change le fait que j'ai tout ça? Si je ne sais pas quoi en faire, si je l'utilise mal, si je base ma vie uniquement sur ça, parce que c'est une vanité. Si après ma mort, le jugement me conduit à la perdition, L'esprit du sage le dirige tout naturellement du bon côté. Chapitre 10, verset 10. Pour lui faire éviter le mal et tout excès. Salomon a bien fait de demander la sagesse. Et cette sagesse lui a été utile dans tous les domaines de son activité, de ses activités, je pourrais dire, en tant que roi. Et nous, cette sagesse, ne nous est-elle pas indispensable dans chaque moment de notre vie? La valeur du travail. Tous les ouvrages que l'homme a faits et toutes les peines qu'il s'est données ne sont que vanité. Pourquoi ? On n'emmènera rien de tout le travail que nous avons accompli. On n'emmènera rien de tout le fruit de notre travail. Mais la parole de Dieu dit par contre que l'inaction est pire que le travail. Parce que l'inaction, c'est la mère de tous les maux. La paresse détruit l'homme et engendre pauvreté et ruine. C'est ce que nous trouvons dans l'Ecclésiaste encore. Le travailleur a le sommeil doux, même si parfois il pense à son travail dans la nuit. Et le travail en commun offre bien des satisfactions. C'est pourquoi l'Ecclésiaste exhorte quand même au travail. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Fais-le. Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Il y a un dicton qui dit que le bonheur appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ce n'est pas en vain. Puis nous voyons aussi dans les versets que nous avons lus la valeur de la joie. Même paradoxe pour la jouissance et la joie. Elles ne peuvent donner en elles seules un sens à notre vie. Ce n'est pas parce que vous allez rencontrer quelqu'un que vous avez l'impression qu'il est joyeux du matin au soir et du 1er janvier au 31 décembre que le sens de sa vie en vaut la peine. C'est pas pour ça qu'il faut être triste. Et pourtant, Dieu a créé l'homme pour le bonheur et pour la joie. Et en fait, tout ce que Dieu a offert à l'homme comme bonne chose, faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail, cela aussi vient de la main de Dieu. Dans Ecclésiaste. Alors quel est le but de tout ça? Depuis qu'il y a des hommes qui pensent, donc depuis le départ, l'homme pense, à quoi pense-t-il? Mon Dieu, comme on dit. Et il se pose toujours la même question, quel est le sens de ma vie? On n'a pas attendu 2013 pour se poser cette question-là. Moi, je n'ai pas attendu 30 et quelques années pour me poser cette question-là. Et vous, peut-être même plus loin encore. Quel est le sens de ma vie? Regardez Adam et Ève, vous avez la plénitude, vous avez tout pleinement en Dieu. Mais il fallait encore qu'ils trouvent un sens à leur vie en mangeant le fruit défendu. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Matthieu 16, 26. Mais aussi chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça fait penser à Salomon. Seigneur, je ne te prie pas pour être riche, pour être célèbre, pour avoir plein d'enfants, pour avoir le meilleur job du monde. Et j'en passe. Mais Seigneur, dans ce qui fait que je suis là, que je suis moi, donne-moi simplement la sagesse. Que nous n'ayons pas l'impression que notre vie soit une vie de vanité, ça sert à rien. Mais par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas le négliger pour nous éviter de détourner notre vie de la vie de Christ, de nous attacher plus particulièrement à l'argent, à la famille, au travail. C'est pas ce que Dieu nous demande. Et l'Ecclésiaste, en cela, a raison. A raison de dire, mais de toute façon, voilà, ça, ce que je porte, ce que j'ai mangé, c'est vanité, c'est nécessaire, mais c'est vanité. Ça n'a aucune valeur. C'est pas ça qui donne le sens de ma vie. C'est pas ça qui prouve mon existence. C'est pas mes 3500 copains ou contacts, enfin, c'est peut-être pas beaucoup sur Facebook. C'est pas beaucoup, hein, 3500, c'est ça? Non, si, c'est beaucoup. Je sais pas, je n'ai pas de compte sur Facebook. Alors vous allez dire, oh, il est pas moderne, lui. C'est pas grave. Maintenant, c'est Twitter aussi. Oh là là, je suis dépassé. Il y aura toujours quelque chose qui nous détournera du sens principal de notre vie. Il n'y a qu'en levant les yeux vers Dieu, nous approcher de Dieu, que là, on va découvrir le sens de notre vie. Apprécions les biens qu'il nous donne, apprécions ce que nous avons, sachons apprécier aussi ce que nous n'avons pas. On ne peut pas passer sa vie à avoir envie de quelque chose. Ça me fait penser aux enfants. Ils vont vous tanner pour avoir un jouet. C'est celui-là. Je veux celui-là. Il n'y a rien d'autre. Ma vie, c'est ce jouet. Vous allez lui offrir. Peu de temps après, soit il est cassé, soit il est perdu, soit il est retourné dans un coin, il ne sert plus à rien. L'Ecclésiaste décrit 8 situations humaines qu'il a observées. Et 8 fois, il dit « j'ai vu ». J'ai vu, j'ai observé. Il était bien placé pour observer plein de choses en tant que roi. J'ai vu, j'ai observé. Il a pris le temps d'observer. Et dans 7 cas sur 8, l'homme est malheureux. L'homme ne peut pas trouver le sens final des choses, tout compte fait, déclare l'Ecclésiaste. N'oublions pas qu'il a sa vision terrestre, hein. Son analyse, c'est une analyse pendant la vie de l'homme, sur terre. Donc c'est pour ça qu'il dit l'homme ne peut pas trouver le sens final des choses. Parce que Dieu reste souverain. Et tant que l'homme gardera les yeux fixés sur ces choses, il ne verra pas Dieu. Et il cherchera toujours quelque chose en croyant qu'il va le mettre la main sur le bonheur, le Saint Graal. Mais il dit que, oui, au travers de tout cela, la vie vaut quand même mieux que la mort. Assurément. Mais n'en attends pas trop des richesses et du travail et de la famille. Il dit aussi « gare au revers de fortune ». Vous voyez, je crois que c'est juste avant. Et en fait, c'est même pas moi qui vais en jouir. Mes parents aimaient bien mettre un petit peu d'argent de côté, comme on dit. On va mettre un petit peu d'argent de côté. À quoi ça sert? Non, on n'en a même pas profité. La folie, elle est pareille chez tout le monde, riche ou pauvre, mais plus tentante chez les riches. Parce que la richesse a tendance à détourner nos regards de Dieu. Mais pas forcément, encore une fois, parce que Dieu n'est pas contre les richesses. L'Ecclésiaste dit « Jouis de toutes les joies que t'offre l'existence ». Oui, c'est vrai. Dieu aussi veut que nous apprécions tout ce qu'il nous permet d'avoir. Est-ce que nous savons apprécier ce qui nous entoure? Ou c'est du banal? Ce n'est sans valeur. Dieu ne veut pas que nous négligions cela, cet aspect-là. Mais il veut surtout, c'est que nous ayons le sens de notre vie, c'est le sens que Dieu donne à notre vie. Parce que tout cela, tout le reste, ce n'est que vanité des vanités. Cela ne sert à rien. La poursuite du vent. Donc que nous puissions vraiment réfléchir à cela. Est-ce que le sens de ma vie, c'est ce que je possède, on va dire, ou est-ce que le sens à ma vie, c'est le sens que Dieu a donné à ma vie? Que le Seigneur bénisse sa parole.